profession philosophe. Mais être philosophe, est-ce un métier? Est-ce une vocation? Comment se fabriquent les concepts? Et quel est le rôle du philosophe dans la cité? Mon invité aujourd'hui a écrit plusieurs romans où l'on croise l'enfance, le mensonge et de longs fleuves pas très tranquilles. Deux essais sur le cinéma de Jacques Rivette et un autre sur Rossellini. Elle organise en ce moment une exposition sur l'amour à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine. Et elle a traduit un scénario d'Orson Welles, un livre d'Adorno. Elle a produit des documentaires pour la radio et réalisé un court-métrage. Et la philosophie dans tout ça. C'est pourtant avec elle que tout semble avoir commencé. Alors que s'est-il passé? Fâcherie ou désamour? Mon invitée aujourd'hui s'appelle Hélène Frappa et peut-être elle aussi a-t-elle envie de prendre sa revanche, mais quelle revanche?
Miss Wyndham, what had you done earlier that day?
I got up, got a latte, went to the gym, got a perm and came home.
Et vous avez pris une douche?
Sur ce point, le témoin a été très clair et elle a dit qu'elle était sous la douche, non?
Oui, votre honneur. Miss Wyndham, vous avez déjà eu une permanente avant?
Deux par année depuis mes 12 ans.
Un jour, une fille de ma confrérie, Tracy Marchenko, s'est fait donner une permanente. Tout en a essayé de l'en dissuader. Les boucles, ça lui allait pas du tout. Elle n'avait pas votre structure faciale. Mais par chance, le même jour, elle fit partie du concours de t-shirt mouillé Belta Delta Piwi, où elle fut complètement mouillée de la tête aux pieds.
Objection! Pourquoi toute cette histoire?
Oh, c'est pertinent, je vous le promets.
Alors, allez-y.
Chutney, dites-moi pourquoi Tracy Marchenko a perdu ses bouclettes après s'être fait arroser?
Elles étaient mouillées.
Exact. Maintenant, est-ce une règle capitale et primordiale de ne pas mouiller les cheveux pour au moins 24 heures lorsqu'on vient d'avoir une permanente, au risque de désactiver le tiglicolate d'ammonium? Et si vous n'étiez pas en train de laver vos cheveux comme je le pense, car vos bouclettes sont intactes, ça c'est certain, n'auriez-vous pas entendu la détonation? Est-ce que ce n'est pas ça?
J'ai jamais voulu le tuer. J'ai cru que c'était toi qui ouvrais la porte.
Toutes les charges sont rejetées. Madame Wyndham, vous êtes libre de partir.
Quant à vous, je vous invite à rester, Hélène Frappa. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être venue sur le chemin de la philosophie. Vous m'aviez prévenu que vous alliez être émue, mais là, j'avais même pas fini mon introduction, que déjà, vous m'avez fait signe que vous étiez en train de pleurer. On va continuer toute l'heure comme ça.
À chaque fois que je revois La Revanche d'une blonde, je suis en larmes.
C'est vrai?
Oui.
Et pourquoi?
Bah, pour le dire d'une manière qui va paraître peut-être à la fois ridicule et complètement vaniteuse. La première fois que j'ai vu ce film, c'était en séance de presse. J'écrivais à l'époque au Cahier du cinéma. Je me suis dit c'est mon autobiographie en fait, voilà ma vie sur l'écran, voilà mon parcours, cette histoire de cette Elle Woods, cette blonde qui va durement lutter pour arriver jusqu'au royaume des brunes, c'est-à-dire Harvard, le droit, Aristote, le royaume de la pensée, cette femme prise pour une ravissante idiote qui va devoir prouver par beaucoup de comment dire d'opiniâtreté et d'une forme de gentillesse et de naïveté absolument toujours inentamée. Voilà, ce personnage est, je trouve, un des plus beaux personnages du cinéma américain récent. Et puis aussi, ça m'a permis à ce moment-là de commencer à réfléchir à l'époque au Cahier du cinéma sur cette question qui paraissait complètement futile à mes collègues de l'époque, qui était « qu'est-ce qu'une blonde ?» et qui, pour moi, derrière cette question, il y avait une des questions les plus importantes finalement de l'histoire du cinéma et peut-être même de aussi la question des femmes d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'une blonde alors?
Posée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une blonde? Alors est-ce que c'est un objet sexuel? Est-ce que c'est une poupée? C'est une question, comment dire? D'abord, la blonde ne va jamais seule. La blonde va toujours par deux. Quand il y a une blonde, il y a toujours une brune. Alors la question des rousses, c'est une autre question. Il faudra une autre émission et ça, j'ai consacré d'autres articles. Mais elle va par deux, donc c'est un principe cosmologique. C'est le soleil et la lune. C'est l'opposition des femmes, la guerre des femmes, ou aussi bien ce qu'on appelle aujourd'hui leur sororité. C'est la question de l'artifice, parce que ce qui m'intéressait, c'était pas les vraies blondes, mais les fausses blondes, parce qu'il n'y a que de fausses blondes au cinéma. C'est-à-dire au cinéma, ce qui est vrai, c'est le faux. Donc avec cette question des racines, de la permanente,
c'est un élément clé dans le film La Revanche d'une blonde.
Oui, élément clé. Et dans le film d'après, moins bon d'ailleurs, La Revanche d'une blonde 2, il y a la question des racines. Alors pas au sens, disons, le pénis du terme, mais au sens vraiment strictement futile, les racines des cheveux. Ce que Madonna a immortalisé sous le terme de dirty blonde, les blondes avec des racines. Cette question-là, en fait, elle entraîne en effet toute la question de la vérité de l'artifice, de la mise en scène, derrière de l'écriture. Et elle m'a permis, moi, vraiment de d'évoluer dans mon rapport originellement assez rigide à la question de la vérité. Mmh. Voilà.
D'où le rapport autobiographique, vous dites, à ce film.
Entre autres, et puis aussi, il se trouve que je me suis retrouvée jeune dans le monde de l'élite autoproclamée, bon, en l'occurrence l'école normale supérieure, et il y avait beaucoup de liens dans ce film, hein, enfin entre ce que moi j'ai pu ressentir à l'époque et ce que ce personnage de Elle Woods ressent, d'un sentiment peut-être d'illégitimité, et en même temps de choses approuvées, et approuvées aussi comme femme. Enfin, ça a fait beaucoup d'écho.
On va essayer de comprendre tout ça. On a 50 minutes ensemble. On va la raconter, j'espère. On va remonter aux origines de votre rencontre avec la philosophie. On va essayer de découvrir et d'explorer vos sources d'inspiration philosophique et extra-philosophique. Explorer aussi votre atelier d'écriture et réfléchir au rôle politique du philosophe ou de la philosophe. Mais avant cela, s'il fallait retenir un terme, un concept autour duquel s'articule votre travail, aussi protéiforme soit-il, il me semble que ce serait peut-être celui du mensonge. Et ce que vous venez de dire sur La Revanche d'une blonde me semble me donner raison. Est-ce que je me trompe ?
Oui, c'est sans doute... En tout cas, ça a été l'un des, probablement le premier nom par lequel j'ai formulé une de mes obsessions. Alors, c'était plutôt la question de la vérité qui m'obsédait, ouais. Mais aussitôt, pour moi, elle apparaissait aussi bien enfant qu'adolescent, que quand j'ai fait des études de philosophie, dans cette dualité qui était, comme je le disais, assez rigide pour moi au départ, c'est-à-dire soit le mensonge, soit la vérité. Il m'a fallu beaucoup de temps pour introduire d'autres notions qui ont plus à voir avec la croyance, avec finalement la fiction. Ça a été que probablement que j'ai été aussi un enfant à qui on a sans doute pas mal menti. Enfin, vous allez me dire, c'est assez banal, hein. Ce que je dis, je pense que ça a à voir avec la condition même de l'enfant. Et ça a été une obsession, oui, pour moi, pendant longtemps.
Est-ce que c'est par amour?
Plus, mais ça l'a été, oui.
Ou quête de la vérité que vous avez d'abord décidé de faire de la philosophie?
Alors, j'ai rencontré, moi, la philosophie quand j'étais... j'ai eu des lectures... j'ai eu une enfance vraiment qui a été dans les livres, à peu près, pas entièrement, mais presque. Dès que j'ai commencé à apprendre à lire, j'ai commencé à habiter ce monde. L'endroit où je vivais, je le trouvais pas toujours totalement habitable. Donc c'est vrai que du coup, je l'ai habité par les lectures, par les livres, etc. Et j'ai rencontré du coup très tôt, à des âges vraiment, à un âge même un peu étrange, des textes de philosophie comme celui de Nietzsche. Mais celui qui m'a vraiment marqué en premier, c'est Spinoza. Quand j'étais, je sais plus, 12, 13, 14 ans, je me souviens pas, mais j'ai lu l'éthique. Probablement, j'ai rien compris, hein, mais en tout cas, je suis tombée amoureuse de ce texte qui m'a complètement bouleversée. Et puis, assez vite après, j'ai lu, je me souviens d'avoir lu la critique de la raison pure. Alors ça devait être peut-être avant d'entrer en terminale. C'était un été, je me souviens, c'était en Corse, dans la famille chez ma grand-mère maternelle. Et je me souviens d'avoir traversé cet été avec ce texte et d'avoir à la fin, le jour où je l'ai fini, je me souviens d'avoir dit triomphalement à un public tout à fait interloqué, c'est un roman d'initiation, me suis-je dit. Ce qui paraissait probablement assez idiot à l'époque, et rétrospectivement, je me dis que ça m'est resté, ça éclaire aussi beaucoup mon propre cheminement par rapport à la philosophie, c'est-à-dire finalement de revenir à la question du roman et du roman d'initiation, parce qu'il y a aussi ça, finalement, dans la critique de la raison pure.
Mais qu'est-ce qui, à cet âge, avant la terminale, vous a donné envie de lire la critique de la raison pure en entier, ce qui arrive très rarement?
Oh, j'étais une...
Qu'est-ce que vous cherchiez?
J'étais une enfant très disciplinée, pour ne pas dire un peu obsessionnelle, mais donc je terminais toujours ce que j'avais commencé. Et d'ailleurs, je me suis mis ensuite des maximes kantiennes tout à fait rigoristes au-dessus de mon lit quand j'écrivais ma thèse, en disant qu'il fallait toujours obéir au programme qu'on s'était fixé. Non, par ailleurs, je pense que j'ai très tôt décrypté l'univers à travers les livres, à travers la lecture, même quand je ne comprenais pas ce que je lisais, peu importe, ça m'apportait une clé, même une clé qui était sur un certain plan, en fait.
Et qu'est-ce qui vous a bouleversé dans l'éthique de Spinoza?
Ce qui m'a bouleversé à l'époque, c'est, en tout cas, j'avais l'impression, j'avais le désir d'écrire un livre de fiction qui soit une sorte d'expression de ce livre de Spinoza sur un plan, je dirais. Moi, je pense que j'avais une sorte d'expérience un peu panthéiste, cosmologique de ce texte. J'y voyais quelque chose comme ça, d'une effusion, avec ce que je ressentais, de moments d'intensité, de la réalité, c'était assez abstrait. Non, c'était pas très abstrait, en fait. J'ai eu un rapport très charnel avec ce texte. Mais j'aurais du mal à vraiment l'exprimer, sinon que c'est... Moi, je pense que c'est très important, finalement, ces choses qu'on, parfois, qu'on néglige ensuite quand on fait, dans les études, mais assez vite même, hein, pas seulement dans les grandes études, comme on dit, mais de savoir ce qu'on ressent dans les textes, et si on les aime, pourquoi on les aime, enfin, pourquoi, j'en sais rien, on s'en fout d'ailleurs pourquoi, mais ce qu'on ressent et ce qui nous font ressentir charnellement, organiquement. Et c'est vrai que ça a été pour moi, c'était un coup de foudre, Spinoza, de ce point de vue-là. Puis après, j'ai lu. Après, j'ai découvert aussi le courage, l'héroïsme même, pour dire comme Kant, de cet homme. Et ça m'a... J'avais besoin de grandes figures, assez naïvement. Hein, j'avais besoin, on pourrait le dire, de grandes figures paternelles. Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 7 ans. Donc, j'ai lu beaucoup. Et puis, comme à peu près, je pense probablement tous les gens qui écrivent, ça s'est constitué sur une perte, en fait. Et donc voilà, j'ai mis beaucoup de livres à la place de ces... J'avais comme ça des héros, bon, qui étaient parfaitement inaccessibles et très, très abstraits, très inapplicables, mais que j'essayais comme ça, un peu comme Elle Woods dans La Revanche du Monde, parce que c'est ça que ça raconte aussi. Alors on peut se moquer d'elle, on peut voir ça comme une forme de naïveté, mais comme dirait Kant, la naïveté est quelque chose d'assez... Il y a quelque chose de sublime dans la naïveté.
Et après le bac, vous décidez d'en faire votre métier, la philosophie ?
Alors je pense qu'il y a eu aussi une autre chose, c'est que j'ai commencé un métier, j'ai pas réfléchi. Alors j'aurais dû réfléchir un peu parce que j'étais pas particulièrement, un jour ou l'autre, il aurait fallu que je trouve un métier. J'avais pas, les moyens de passer ma vie à juste lire et étudier des textes. Mais c'est vrai que ça a été un moment, vous parliez de fâcherie peut-être au début, ça a été un moment où je me suis détournée de la littérature, la philosophie. C'est-à-dire, ça a été le moment où j'ai choisi, entre l'imagination, qui pour moi était du côté du roman, je lisais énormément de romans, j'essayais d'en écrire, j'écrivais des nouvelles, j'ai commencé très tôt. Et puis à un moment, j'ai arrêté parce que ça me faisait assez peur, en fait. L'imagination me faisait assez peur. Je la trouvais dangereuse. Je pense que pour moi, elle avait à voir avec quelque chose du côté de la folie, l'imagination, ce risque-là. Et j'ai cru, je pense, au fond, ce qui était une vision très assez naïve, pour le coup, de la philosophie, parce que ça omet de... c'était une manière de pas voir à quel point tous les plus grands systèmes philosophiques sont, en fait, eux-mêmes reposent sur une richesse d'imagination inouïe. Mais j'ai cru choisir, je suis entrée en philosophie, vraiment, un peu comme on entre dans les ordres à l'époque, d'une manière, très rigoureuse, rigoriste, comme si j'abandonnais l'imagination et ses errements pour aller dans la recherche de la vérité. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu à l'époque.
Un grand professeur, évidemment, où les moments les plus influents d'un grand professeur sont ceux où il n'est pas en train de lire quelque chose. Je ne dis pas où il improvise, mais bon. Moi, je suis un cas un peu pathologique. C'est-à-dire, autrefois, je préparais mes cours très soigneusement. Naturellement, je les rédigeais. Bon. Alors, ça donnait pas de bons résultats. Mais il est arrivé assez vite un moment où une espèce de pulsion, est devenue la plus forte. C'est-à-dire qu'il suffit que je sois en train de lire quelque chose pour avoir envie de partir ailleurs, les étudiants rient. Je fais une digression et puis ensuite une digression dans la digression, etc. Bon, alors l'improvisation, c'est dangereux, ça donne le meilleur et le pire, mais le fait est que je ne suis pas capable de lire un cours entièrement écrit.
Profession philosophe sur les chemins de la philosophie sur France Culture, aujourd'hui en compagnie d'Hélène Frappa. Vous avez reconnu la voix qu'on vient d'entendre ?
C'est Étienne Balibar.
Oui, c'était votre professeur ?
Oui, il a beaucoup compté pour moi. J'ai fait ma maîtrise avec lui et ensuite il était dans mon jury de thèse. Alors il n'avait pas accepté mon premier sujet de maîtrise qu'il avait fait éclater de rire. En fait, je voulais travailler sur la conspiration chez Leibniz et Rivette.
La conspiration chez Leibniz et Rivette.
Oui, c'était ça que je lui avais très sérieusement proposé. Bon, il avait éclaté de rire. Je pense qu'il a peut-être même pas pris au sérieux. C'était très sérieux pour moi. Bon, j'ai fait autre chose qui était très bien. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, oui, qui a joué ce rôle-là aussi d'un maître, on peut dire, oui, d'un maître. Et puis il avait, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour aussi, Étienne Balibar, et qui me renvoyait, je me souviens pendant ma soutenance de thèse, qui était une thèse sur Kant, sur la notion de force chez Kant. Et à un moment, il s'était interrompu pour me regarder, assez interloqué, en me disant, mais enfin, Hélène, vous y croyez vraiment à l'impératif catégorique, m'avait-il dit. Et je me souviens d'avoir été outrée à l'époque par cette question, vraiment outrée. Et j'avais répondu, mais bien sûr que j'y crois, avais-je répondu de tout le sérieux de mes, 26 ans. Et il avait éclaté de rire en disant, mais vous êtes complètement maso, Hélène. Et je me souviens que j'avais pas compris à l'époque. Il m'a fallu des années pour comprendre la pertinence de cette
masochisme du cantisme
de cette remarque. Mais c'était beau. C'était un échange. C'est très, comment dire, vous voyez, ce sont des échanges qui me font penser aux screwball comedies, à la comédie américaine, voilà, où on apprend un peu en accéléré. Il y a ce temps très long de la lecture, et puis en même temps, il y a ces moments d'épiphanie dans le dialogue, comme dans le cinéma américain. Et voilà, je me souviens d'un dialogue comme ça, qui était très beau.
Donc la maîtrise avec Étienne Balibar, la thèse, on avait parlé. Est-ce que vous passez la grègue à ce moment-là?
J'ai eu la grègue avant, je pense.
Ouais. Oui, oui. Et puis vous quittez l'université.
Oui, alors j'ai fait, en effet, tout le... Moi, j'adorais la philosophie, je me suis pas posé de questions au sens où pas tellement de ce que j'allais faire ensuite. J'ai fait le maximum de temps et d'approfondissement que je pouvais faire. Et c'est vrai que j'ai fait cette thèse avec beaucoup de...
Vous avez coché toutes les cases. La maîtrise, agrègue et thèse.
Oui, oui, bien sûr. Non, j'ai coché toutes les cases de la normalité, comment dire.
Des études de philo.
Voilà, pour reprendre le terme de l'école où j'étais à l'époque. Mais, alors, je pense que d'abord, j'étais pas complètement à l'aise dans cette école pour toutes sortes de raisons, des raisons probablement un peu sociales, des raisons aussi de genre, on dirait maintenant. C'était pas extrêmement facile à l'époque, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Ce que j'ai ressenti un peu rétrospectivement, d'ailleurs, parce que sur le moment, je dis ça, mais si je le ressentais, c'était pas totalement facile d'être une jeune femme qui faisait de la philosophie, rue d'Ulm à l'époque. Il y avait certaines formes de discrimination qui s'exerçaient. Je pense à des sujets de leçons, par exemple, qui étaient donnés, qui n'étaient pas exactement toujours les mêmes. Ou moi, certains enseignants, alors pas mon caïman, comme on disait à l'époque, Frédéric Worms, qui était quelqu'un de, et qui est toujours quelqu'un de absolument merveilleux, et qui avait cette sorte de mélange de grande intelligence et de bonté, et qui m'a beaucoup, sans le savoir sans doute à l'époque, mais marqué, touché. Mais voilà, c'était pas simple, hein, la question.
Il y avait une différence, vous dites, dans l'enseignement que vous receviez? Non, moi j'ai le souvenir. Si un garçon ou une fille?
Moi j'ai le souvenir, l'enseignement était le même, mais j'ai le souvenir, par exemple, qu'on me donnait de certains sujets, ou par exemple, je sais pas, le corps et moi, et si je le prenais pas, j'avais droit à des remarques qui étaient des remarques ultra misogynes, en fait, du genre, des remarques faisant allusion à des journaux féminins débiles de l'époque, ou faisant... Voilà, il y avait quelque chose avec la question du corps pour une femme qui n'était, je pense, pas totalement simple.
Mais ça a changé, ça, vous pensez?
J'espère, je sais pas. Je me rends compte que j'en garde une certaine colère, en fait, rétrospective. Bon, c'est pas ça qui fait... J'ai commencé ma soutenance de thèse, et c'est étonnant parce que je m'attendais pas du tout à dire ça. Je me souviens d'avoir commencé ma soutenance en disant « J'ai choisi le sujet le plus masculin de l'histoire du cinéma ». J'étais presque étonnée moi-même de dire ça. C'est vrai que je cumulais, c'était Kant et c'était la notion de force qui est notion...
C'est l'histoire du cinéma, vous avez dit.
Ah, c'est un lapsus.
Vous parliez bien de philosophie.
Oui, oui. Eh ben voilà, nous y sommes. Donc en fait, je vais... En effet, à l'époque, j'écrivais déjà sur le cinéma. Et j'étais... En fait, je ne choisissais pas entre mes différents amours. Alors j'avais mis de côté quand même la fiction, en tout cas l'écriture de la fiction. Mais je n'avais pas mis de côté le cinéma qui avait autant d'importance pour moi. À une époque, quand on me demandait de me présenter, je disais que j'étais un agent triple. Ou un triple agent, pour parler comme Éric Rohmer, mais pourquoi pas quadruple, quintuple. Mais c'est vrai que j'avais commencé à écrire sur le cinéma. Ça m'a été reproché au moment de, alors pas de ma soutenance, mais quand j'ai une fois demandé un poste, on m'a reproché à l'époque ce qu'on appelait mon éclectisme. Je pense que l'université a changé. Mmh. Votre émission en témoigne, hein, elle fait entrer, enfin, il y a cette question, cette hétérogénéité, disons, des domaines sur lesquels la pensée peut s'exercer. Maintenant, elle est, j'espère, en tout cas, admise. Hein, en tout cas, elle est vivante. C'était pas tout à fait le cas, et probablement avec d'autres raisons, et puis une espèce d'obsession que j'avais pour la liberté, que j'ai toujours eue et que je continue à avoir et qui s'exerçait un peu presque malgré moi. C'est vrai que j'ai un peu pris mes jambes à mon cou et j'ai quitté l'université. Alors est-ce que ça veut dire quitter la philosophie? J'en sais rien.
Oui, c'est toute la question.
Mais j'ai quitté l'université, oui.
Mais est-ce que ça veut dire, juste encore un point à ce sujet, que faire de la philosophie, c'est pas la même chose selon qu'on soit un homme ou une femme? Enfin, est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est important de genrer les choses? Est-ce qu'une femme fait de la philosophie différemment qu'un homme?
Alors, je ne sais pas. Je pense que la question de la discrimination, elle doit être toujours posée. Enfin, elle doit être toujours, comment dire, légiférée même. C'est vrai que quand j'étais petite, dans toutes mes études, aussi bien quand j'étais petite, au collège, etc., les filles, nous avions quand même très peu de représentations des femmes philosophes, des femmes écrivaines aussi. Hein. Ça, c'est quelque chose... dont je me suis rendu compte finalement très très récemment. Mais qu'est-ce qu'on avait ? On avait un peu de Louise Labbé, deux trois femmes, la princesse de Clèves, qui en général avait un énorme chagrin d'amour et qui était complètement désespérée parce que leur mec les avait largués. Enfin, c'était quand même un peu ça la représentation. Il y avait deux trois. Bon, Jane Austen, les écrivaines anglaises, on en parlait peu. Bon, moi, j'ai retraduit Les origines du totalitarisme. On parlait quand même d'Anna Arendt, mais c'était pas non plus. J'ai découvert récemment l'existence d'une très grande philosophe, Mary Wollstonecraft, la mère de Mary Shelley, génie écrivaine. Bon, j'avais jamais entendu parler d'elle, c'est une très grande philosophe. Donc, il y avait quand même, je pense qu'il y avait une question de représentation. Je la poserais plutôt comme ça. Après, sur la question de l'écriture, hein, moi, j'ai pas tellement de réponse à cette question. Je pense que l'historicité a un sens, hein. C'est-à-dire que par exemple le fait que, en tout cas pour les écrivaines, les femmes aient été très longtemps confinées dans leur chambre ou leur cuisine, ça a joué sur les objets même des textes. On voit bien que la poésie d'Emily Dickinson, les romans de Jane Austen, ils ont à voir avec Jeanne Eyre, enfin, etc. Ça a à voir avec cette forme de confinement. Jeanne Eyre, le roman, magnifique roman de Charlotte Brontë, ça commence par « Il était impossible de sortir ce jour-là ». Bon, ça raconte quand même pas seulement le fait qu'il pleut beaucoup en Angleterre et qu'elle peut pas sortir, mais qu'elle est confinée, voilà. Donc moi, je le verrais plutôt comme ça. Je penserais, voilà, plutôt comme ça. Après, c'est vrai que la pensée, historiquement, elle est pas vraiment censée être l'apanage du féminin. Ça, c'est quelque chose, je pense, il y a encore une forme d'une certaine condescendance qui peut s'exercer, en effet, sur le rapport de... Et étonnamment, d'ailleurs, c'est une chose qu'on retrouve aussi dans le cinéma. Je dis étonnamment parce que ça a été un autre objet d'étude. C'est-à-dire que c'est vrai que dans le cinéma, historiquement, la femme, elle est l'objet du regard, mais elle est regardée, mais elle est peu celle qui regarde. Elle est plus la proie du regard. Donc voilà, tout ça, c'est des questions... c'est pas par ces questions-là que je suis venue, disons. Mais c'est des questions maintenant que je me pose, oui, beaucoup plus.
Je ne crois pas aux coïncidences.
Vous avez tort.
Non, tout se tient. Tout me donne toujours raison.
Si vous y tenez...
J'y tiens. Encore un.
Vous connaissez ?
Peut-être.
Comment ?
Je dis peut-être, je préfère m'en aller vite, venez vite. Je vais vous apprendre une chose. Le monde n'est pas ce qu'il est.
Ah.
Non, laissez-moi parler. Ce que je vous dis, il y a des gens qui le devinent, mais personne ne le sait. Moi, je sais. Il s'agit plus de quelques millions d'hommes. C'est le monde entier qui est menacé. Qui ne s'en doute même pas. Ce que nous croyons vrai n'est qu'apparence. Ce que nous prenons pour les puissants ne sont que des marionnettes. Les vrais maîtres se cachent et gouvernent en secret.
De qui parlez-vous ?
De ceux qu'on ne peut pas nommer parce qu'ils n'ont pas de nom. J'ai l'air de vous parler en parabole, mais il y a des choses indicibles qu'on ne peut dire qu'en parabole. On vous a parlé de Juan ?
Il s'est suicidé.
Peut-être.
Vous croyez que...
Je ne crois rien.
C'était Paris nous appartient de Jacques Rivette, un film qui date de 1958. Vous avez écrit sur Jacques Rivette, Hélène Frappa. Que vous apporte le cinéma, que vous ne apportez pas la philosophie ?
Pour moi, c'est un objet de pensée. C'est le lieu même de la pensée. Je pense que
le cinéma.
Pas, oui, je pense que c'est pas simplement le lieu d'une illustration de la pensée, mais c'est un lieu où s'exerce de la pensée. Jean Renoir disait qu'il filmait la pensée sur le visage des acteurs. Et c'était Paris nous appartient. C'est un film qui m'a complètement bouleversée quand je l'ai vu. Adolescente dans une salle, c'était au Panthéon. C'est un film absolument dialectique parce que Paris nous appartient, c'est le titre, et puis juste après il y a la citation de Charles Péguy, Paris n'appartient à personne. Donc déjà voilà, on est dans cette dialectique rivettienne. Mais c'est vrai que quand j'ai écrit mon premier livre, mon premier texte que j'ai publié des années après avoir un peu arrêté d'écrire, c'était un texte dans la revue qui s'appelait Trafic, créé par Serge Danet, et c'était un texte sur Au bas fragile de Jacques Rivette, et puis peu à peu j'en suis venue à écrire ce livre. Et c'est vrai que l'idée était de comprendre comment le cinéma de Rivette nous délivrait un savoir. Donc c'était pour moi, c'était une continuation de la philosophie par d'autres moyens. Il n'y avait pas de différence pour moi dans cet arpentage de territoire, en fait.
D'autant que le film en question, et le cinéma en général, soulève la même question, la même interrogation qu'on formulait en début d'émission, hein, cette dialectique entre la vérité et le mensonge, au fond. C'est l'extrait qu'on a entendu. Là, il est en plein complotisme, au fond. Il met tout en question, rien n'est vrai, etc. Et on retrouve ce fil directeur-là.
Oui, alors ça, c'est sans aucun doute ce qui m'a fascinée quand j'étais adolescente. Bon, en plus, les ados adorent ce genre d'histoire. Il y a un côté un peu paranormal, un peu de complot politique et tout. Mais en même temps, ce qui est beau dans ce film, finalement, c'est que ce que je disais juste avant l'extrait sur la question du féminin, ce film-là pourrait nous permettre de l'approfondir encore plus, parce que quelqu'un comme Jacques Rivette, c'est quelqu'un qui est venu au cinéma comme metteur en scène en tant que petite fille, jeune femme. Il s'est toujours filmé à travers, on pourrait dire que Jacques Rivette est une grande cinéaste. Moi, l'une de mes écrivaines préférées, c'est Gustave Flaubert, par exemple.
Pourquoi vous les féminisez?
Parce que pour moi, c'est une manière, comment dire, de complexifier un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la question du genre. Il y a la question historique, effectivement, d'une forme de relégation des femmes. Mais après, je pense que quand on écrit, pour répondre avec l'esprit d'escalier plus tard à la question que vous posiez, est-ce qu'il y a une écriture féminine ou masculine? Je pense que c'est plus complexe, hein, pour le coup. Et un homme peut écrire comme une femme et Rivette se filmer absolument comme... à travers se projeter à travers toutes ces personnages de jeunes filles où je me suis construite aussi en voyant ces films. Et c'est vrai que je l'ai rencontré ensuite. Pendant plusieurs années, on a fait ce qui a été publié finalement dans une revue que j'avais co-créé à l'époque avec une bande de jeunes gens qui sont devenus pour la plupart cinéastes, La Lettre du cinéma. Donc un dialogue avec Rivette qui était vraiment un texte de philosophie sur le... lui-même ne mettait aucune frontière entre... il lisait beaucoup de philosophie, il lisait beaucoup de littérature, voilà. Donc ça a été un de ses maîtres, on pourrait dire. Bon, je sais pas si j'aime ce mot, mais...
Vous l'avez beaucoup employé, en tout cas.
Beaucoup employé, oui, oui.
Oui. Est-ce que les maîtres sont des pères, c'est toute la question? Parce que c'est comme ça que vous en aviez parlé aussi.
Bon, disons que je pense pas que mon père était un maître, enfin j'en sais rien. En tout cas, oui, je me suis cherché beaucoup de maîtres, ça c'est certain. Oui.
Si on s'approche un instant de votre cœur, on entend ceci.
Quando sei qui con me, questa stanza non ha pareti, ma alberi infiniti, quando tu sei vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi, che restiamo abandonnée.
Qu'est-ce que c'est cette chanson pour vous, Hélène Frappin?
C'est Mina, hein, j'aime énormément Mina, c'est la plus grande chanteuse italienne après des années 60, 70, enfin elle demeure, c'est un peu la Maria Callas, je dirais, de la variété italienne, une femme géniale. D'une immense intelligence artistique et humaine, et je suis toujours absolument bouleversée. Je connais à peu près toutes ses chansons par cœur, peut-être pas toutes, mais beaucoup. Et celle-là, c'est une chanson d'amour extraordinaire, et qui est en même temps la chanson de la création, en fait, puisque ce que ça dit, c'est là où se situe, c'est la chambre de l'amour qui n'a plus ni plafond ni mur, et qui est la chambre du rêve, en fait. C'est la porosité complète entre à la fois le sentiment amoureux, le rêve, et moi je dirais l'écriture, en fait. Donc c'est une chanson que je connais depuis très longtemps et qui à chaque fois me bouleverse.
Thank you.
J'ai l'impression que chez vous, Hélène Frappa, il y a un point commun entre le... tout ce que nous avons écouté depuis le début de cette émission, en fait, que ce soit la voix d'Étienne Balibar, l'extrait de film de Jacques Rivette, cette chanson de Mina Mazzini, comme si dans la bande-son de votre existence avait une forme de cohérence. Comme si vous cherchiez la même chose, au fond, que ce soit en philosophie, dans le cinéma, dans la musique, dans l'écriture, que vous étiez mu par un même moteur.
Sans doute. Là, ce qui me frappe en écoutant la fin de la chanson, c'est le ciel. Le dernier mot, c'est cello, le ciel. Et ça me fait penser aussi bien à tous ces films de Rossellini qui finissent par le ciel, volontairement. Hein. Mmh. Je veux dire, Rossellini était à la fois communiste et catholique. Et il y avait cette idée de l'élévation. Je pense à la fin des 400 coups, quand Truffaut disait « les gens vont au cinéma, mais il faut qu'on leur montre la mer ou le ciel à la fin, parce qu'ils s'enferment comme ça ». Et oui, il y a, alors moi c'est cette idée de l'élévation aussi dans la chanson, l'élévation du regard, hein, comme ça, comme un travelling qui monte vers le ciel. Mais oui, sans doute, moi j'ai jamais fait de hiérarchie en fait. Voilà, c'est vrai que sans doute c'est ce qui m'a blessée un peu à l'époque, peut-être dans les études que je faisais, même si je les renie pas, et puis de toute façon du tout. Et il faut de toute façon rien renier de ce qu'on a fait dans sa vie. Mais il y avait, voilà, une sorte de... Il y avait des murs, pour le coup. Voilà, il y avait des murs.
Entre les disciplines.
Il y avait des murs. La chanson de Mina, il n'y a plus de murs, en fait. Hein. C'est une chambre. Alors, c'est la chambre des amants, c'est la nuit. Donc, bien sûr que les murs s'évanouissent et que la seule distance physique qui reste, c'est celle des corps. Et que elle-même, cette distance elle-même s'abolit, etc. Mais c'est vrai que moi, je ne sais pas pourquoi, mais depuis l'enfance, il n'y avait pas de murs pour moi, entre, par exemple, la variété italienne, que j'ai beaucoup entendue chez moi. Enfin, c'était plutôt des chants révolutionnaires italiens, d'ailleurs. Mais le cinéma, le grand cinéma, ou aussi bien les films hollywoodiens, soi-disant commerciaux, mainstream, etc., Fantomette, Spinoza, je n'ai jamais fait de différence. Il y a des différences, je veux dire. Il y a l'ordre des valeurs dans l'éthique, dans la politique, existe. Je ne suis pas en train du tout de le nier. Mais disons, dans les catégories du goût, et particulièrement même du bon goût, du mauvais goût, bon, qui pour moi sont vraiment des catégories assez bourgeoises finalement, hein, ce qui est vulgaire, ce qui est de bon goût, de mauvais goût, ça ne m'a jamais vraiment passionnée. Et c'est vrai qu'un film pouvait devenir vraiment avec une intensité absolue. Voir un certain film, c'était la même intensité que le sentiment amoureux, qui était la même intensité que le sentiment de l'écriture, le sentiment de la pensée, etc. Lire certains textes, voilà, en effet, j'ai toujours recherché. Et je pense que c'est ça que je ressentais dans les œuvres de Spinoza. Alors c'est peut-être un...
Donc l'intensité.
L'intensité est une forme de continuité ontologique, peut-être, on pourrait dire. Alors c'est peut-être un contresens sur Spinoza que je n'ai pas... qui m'arrive de relire quand même, en fait, de temps en temps, mais que je n'ai pas étudié de manière approfondie depuis longtemps. Mais en tout cas, je ressentais quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, quand quelques années après, j'ai écrit un livre qui s'appelle « N'oublie pas de respirer », j'ai mis en épigraphe une citation de l'éthique où justement il est question de ses plaisirs... aussi bien qu'ils sont souvent méprisés par la philosophie. Hein. Et il dit une chose très belle, qu'on cherche, la philosophie cherche beaucoup à lutter contre la mélancolie. C'était aussi le sujet de ma thèse, puisque la question de la force chez Kant, c'est aussi ce qu'il appelle la diététique, c'est-à-dire la psychiatrie, en réalité, hein, disons rétrospectivement. La lutte contre la mélancolie, qui était une obsession de Kant, qui, je pense, me touchait beaucoup à l'époque, la question du suicide, la question de la folie, là, toutes ces questions qui agitent beaucoup le système kantien. Mais derrière cette grande lutte contre la mélancolie, qui à la limite où tout le monde se rallie parce qu'elle est assez noble, Spinoza dit, pourquoi ne pas penser à ces autres luttes, enfin pas, oui, luttes, on pourrait dire, à ces autres plaisirs qui sont tout aussi importants, hein, comme la question du parfum, de l'odorat, de la nourriture, etc., qu'il fait re-rentrer quelque chose de concret, de quotidien, de charnel, qu'il fait re-rentrer dans le champ de la pensée. Et ça m'avait beaucoup bouleversé, je pense.
Comment vous définissez la philosophie ?
Je la définis pas. Je pense que il m'arrive de ressentir parfois ce qu'elle peut être comme une certaine méthode de pensée, je le ressens. Et puis je ressens aussi, je ressens quand elle est pas là, plutôt, d'ailleurs, souvent. Mais je ne sais pas. Je pourrais définir la littérature, je pense. Enfin, en tout cas, donner ma définition, parce qu'il y a plusieurs définitions de la littérature.
Allez-y.
Pour moi, ce qui est au cœur de la question de la littérature, c'est la croyance, en fait. C'est la question de la croyance, en fait. C'est-à-dire mais finalement, est-ce que ça nous renvoie pas à la philosophie? C'est-à-dire de faire exister quelque chose qui n'existe pas, en fait. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que en disant ça, ça me fait penser à un passage de la critique de la raison pure qui m'avait beaucoup frappé à l'époque sur la foi rationnelle. Un passage assez, bon, ardu comme ça, où il parle finalement de la place que doit prendre la croyance en Dieu, place réduite à réduite, c'est pas si réduit, mais enfin à l'espace subjectif de la croyance, c'est-à-dire en gros, pour résumer, j'espère ne pas trahir sa pensée, si on y croit, ça existe, en fait. Bon, ce qui est une manière assez athée, on pourrait dire. Moi, je trouve ça hyper drôle, par ailleurs. Enfin, je trouve que c'est carrément une énorme blague kantienne. Moi, ça m'avait fait beaucoup rire quand je l'avais lu, parce que je m'étais dit, waouh, c'est la phrase est géniale, mais elle est clairement très, 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 très insolente. Si on y croit, ça existe. Bon, finalement, des années après, je me dis que c'est exactement ce que je fais. Dans le meilleur des cas, toute la journée. C'est-à-dire que si je ne crois pas à la fiction que je trame, pour employer un terme rivettien, eh bien, elle n'existe pas. Donc, il s'agit de faire exister l'objet de ma croyance. Alors, peut-être que c'est le point commun entre ce que moi, j'ai pratiqué de la philosophie et ce que je pratique de la fiction maintenant.
Oui, vous écrivez des romans, vous n'avez jamais voulu écrire des essais de philosophie ?
Ben, je considère d'une certaine manière que mes livres de vous voyez, je fais en permanence le lapsus cinéma-philosophie, donc oui, je considère que mes livres de cinéma sont... Pour moi, mon livre sur Rivette, par exemple, est un livre de philosophie, au fond. Enfin, lui m'avait dit, vous m'avez transformé en personnage de fiction, m'avait-il dit en éclatant de rire. Décidément, je fais beaucoup rire mes maîtres, mais je pense que c'est un livre... Oui, je pense que c'est un livre de philosophie pour moi, mais c'est un lieu de pensée pour moi, le cinéma de Rivette.
Beaucoup d'étudiants, d'amis, de critiques, etc., me font remarquer le peu de textes consacrés à la littérature dans ce que j'ai fabriqué. Timidité par rapport à l'écriture littéraire. Extrême timidité, extrême suspicion quant à moi, quant à ma capacité de commenter un texte littéraire. Avec le sentiment que, d'une certaine façon, il n'y a rien à dire parce que, comme disait Breton de je ne sais plus qui, ce qu'il voulait dire, croyez bien qu'il l'a dit. Donc, que la question même, qu'est-ce que ça veut dire, était comme neutralisée d'avance.
Vous êtes d'accord avec Jean-François Lyotard, Hélène Frappa ?
Ah, je suis toujours d'accord et bouleversée par Jean-François Lyotard. Ça a été une rencontre assez extraordinaire pour moi, Jean-François Lyotard. Je l'ai rencontré d'abord dans ses livres, en lisant notamment les textes extraordinaires qu'il a écrits sur Kant, et puis en lisant peu à peu toute son œuvre. Et puis quand je suis partie de l'université, c'est vrai que j'avais ce désir. À l'époque, je me souviens que j'avais lu une phrase de Bataille. En fait, je ne sais pas, j'ai jamais vraiment lu Bataille, je ne sais même pas si c'est une phrase de Bataille, je l'avais lu dans une revue de cinéma, et elle disait « J'ai hâte de coïncider avec moi-même ». Bon, peut-être c'est pas une vraie citation de Bataille. Le fait est que cette citation, moi, m'obsédait un peu à l'époque. Et j'avais envie, je pense, de recoller les morceaux, je sais pas, bon. Et j'ai commencé à écrire un film, qui aurait été un film à partir d'une lettre que j'avais trouvée et que j'ai trouvée à la fin de l'écriture de ma thèse. J'étais tombée dessus dans la correspondance de Kant. Lettre qui avait été complètement ignorée dans l'histoire de la philosophie. Et donc dans la correspondance, je lis cette lettre, c'est la lettre d'une femme qui s'appelle Maria von Herbert, qui une femme donc qui écrit à Kant, c'est en 1880 je crois et quelques, enfin c'est tard, hein, quand Kant est déjà extrêmement vieux et célèbre, et cette femme a eu elle vit en Prusse, elle est assez intellectuelle probablement, puisqu'elle a lu une partie de l'œuvre de Kant, et elle a eu un grand chagrin d'amour parce qu'elle a menti à son amant. Apparemment elle était mariée, elle avait un amant, elle ment à son amant, c'est pas... parce quel mensonge elle lui raconte, mais il la quitte. Il la quitte à cause de ce grand mensonge. Et cette femme, désespérée par ce chagrin d'amour, a cette idée complètement inouïe. Quand je pense à l'ironie dont avait fait preuve justement un de mes anciens professeurs, Udul, en faisant allusion à des journaux féminins que je ne lisais pas, mais elle n'a pas l'idée d'écrire à la presse du cœur, elle a l'idée d'écrire à Emmanuel Kant pour lui raconter son chagrin d'amour, ce qu'elle fait. Et elle le somme... La lettre s'achève. Hein.
Mais la lettre, je l'ai sous les yeux, la lettre est géniale. Elle finit par « J'ai lu à la fois la métaphysique des mœurs et l'impératif catégorique. Rien n'y fait, ma raison m'abandonne alors que j'en ai le plus besoin. Je t'en conjure, réponds-moi, ou alors tu es incapable d'agir toi-même selon l'impératif que tu as mis en place. »
Voilà, alors moi j'ai découvert cette lettre. Alors là, aussitôt, elle m'a fait complètement pleurer parce que j'étais complètement avec elle. C'est-à-dire que d'abord, la lettre est incroyablement écrite dans un style, elle passe du vouvoiement au tutoiement. Il y a quelque chose de fou dans l'idée de s'adresser à celui qui était le Moïse de notre nation, comme on disait à l'époque. Donc, elle va directement voir Moïse, pourquoi pas, je comprends très bien la démarche, pour lui parler de son chagrin d'amour. Ouais. Et Kant lui répond. Et surtout, elle dit cette phrase qui m'obsédait pendant toutes mes études de philosophie et qui, je pense, a à voir avec... en partie, qui a à voir à la fois avec la passion que j'avais pour la philosophie et parfois le chagrin qu'elle me procurait, qui était cette idée, j'étais obsédée par l'idée que le philosophe devait mettre sa pensée en pratique, en permanence. Alors, comment dire, c'est une obsession qui peut amener à beaucoup de, dans le pire des cas, disons, de désagréments, dans le meilleur des cas, des épisodes parfaitement burlesques, parce que finalement, si tous les hommes connaissant le meilleur, ils choisissent le pire, dit Spinoza. Mais enfin, si tous les hommes, en particulier ceux qui professent leurs pensées, l'appliquaient dans le réel, bon... Enfin, le fait est que moi, ça m'obsédait pour de vrai. J'étais obsédée par cette question.
La cohérence entre la théorie et la pratique.
Oui, j'étais obsédée. D'ailleurs, j'étais obsédée par Jean-Jacques Rousseau, qui lui-même est obsédé par cette question, qui est obsédé par la vérité, qui passe quand même à peu près toute sa vie à mentir. Et en même temps, sont-ce vraiment des mensonges quand il dit littéralement certaines choses? Bon, voilà. Et... donc j'écris à l'époque un court-métrage et j'ai cette idée de le faire jouer, de faire jouer le rôle. Alors j'avais une actrice pour Maria Fernerbert et pour moi, Kant allait être Jean-François Lyotard. Je vais le trouver, je le connaissais ni d'Ève ni d'Adam, je lui envoie une lettre je trouve son numéro de téléphone, je lui propose mon idée et là je crois qu'il a aussi éclaté de rire. Le fait est qu'il m'a reçu tout de suite. Et nous avons entamé pendant quelques semaines c'était très beau d'ailleurs, des conversations, des sortes de dialogues, comme disait Rivette, mais autour de ce film qui ne l'étonnait pas du tout. Hein, c'est quelqu'un qui avait... Moi, j'avais en tête un film de Derek Jarman, très beau, sur Wittgenstein, qui était un film complètement dingue, hein, des années 70, absolument échevelé. Mais voilà, je suis allée le trouver et je me souviens qu'il m'a retracé, comment dire, son parcours avec une sorte de... sincérité, de littéralité, d'humilité absolument bouleversante, en m'expliquant comment, en effet, il n'avait cessé lui-même de s'empêcher, il avait eu une vocation monastique qui s'était trouvée contrariée par une vocation politique qui elle-même l'empêchait d'accéder à ce qui était le cœur de son existence, qui était la question de l'art, enfin la question et la pratique de l'art. Et voilà, c'était un homme... un très grand philosophe et quelqu'un de bon, il est mort très brusquement d'un cancer et je me souviens de l'avoir appelé à l'hôpital et qui m'avait dit comme ça cette phrase belle vie, m'avait-il dit. Ça c'est vraiment, voilà, ça c'est vraiment quelqu'un dont je peux dire d'avoir rencontré un philosophe, comme si j'avais rencontré Socrate, ou vraiment, c'est une rencontre de cet ordre-là. Alors le film, vous parliez en commençant d'un court-métrage, il a jamais eu lieu, c'est un fantôme, mais j'aime beaucoup les fantômes, donc c'est pas grave. Et Jean-François Lyotard aimait aussi beaucoup les fantômes, je pense. Et il en avait beaucoup, pas seulement ceux dont il parlait. Et voilà, c'est resté comme un des fantômes qui m'accompagne.
C'est un plaisir pour vous d'écrire ?
C'est une nécessité absolue. Et un plaisir, c'est une joie très grande par moment. Parfois, ça ne marche pas du tout. Mais oui, on peut dire que sinon la vie n'a pas de sens, quoi, pour le dire.
À ce point ?
Ah oui, pour le dire assez simplement, en fait.
Et qu'est-ce que vous cherchez dans l'écriture ? À raconter ce que vous vivez ?
Non, je pense que d'abord, je suis assez convaincue que les livres s'écrivent aussi. Les livres s'écrivent, c'est-à-dire que ce sont eux qui se cherchent et qui cherchent à advenir à travers quelqu'un qui est leur médium, en fait. C'est comme dans La femme sans ombre de Hofmannsthal, où il dit que c'est très beau, que ce sont les enfants, en fait, qui choisissent leurs parents. Ce sont les enfants qui sont nés avant, en quelque sorte. Et je me souviens, c'est très beau, cette idée de femme sans ombre, d'ailleurs, mais je pense que les livres aussi sont là, nous préexistent, et ils cherchent à s'incarner, et dans la mesure du possible, il faut s'effacer devant eux, donc ce que cherche, chaque livre se cherche différemment et à sa forme. C'est une recherche, oui, constante, mais elle... Rivette disait qu'il avait un corps différent sur chaque tournage. Voilà. Je pense qu'on pourrait dire ça aussi quand on écrit, qu'on a un corps différent. Et quand j'écrivais Le Dernier Fleuve, et ben, qu'est-ce que je cherchais ? C'était, je descendais chaque matin, enfin, quand je pouvais, me baigner dans ce fleuve, je le regardais, j'entrais dedans, et puis le fleuve lui-même me dictait ce qu'il y avait à écrire. Chaque livre s'écrit d'une manière différente, mais il y a quelque chose d'assez médiumnique là-dedans, je pense.
Vous n'êtes qu'un moyen ?
Ouais, oui, oui.
C'est
oui,
ça
oui.
que vous dites ?
Oui, oui.
Et comment vous procédez pour recueillir ce que le livre a à vous dire ? En fait, vous avez des habitudes, des rites d'écriture ou...
Ah bah, il faut d'abord qu'il nous soit tombé dessus, le livre.
Comme la grâce.
Oui, oui. Ah oui, oui. Mais pour moi, l'écriture, c'est quelque chose de sacré. Genre, c'est un mot qu'on emploie, qui paraît un peu désuet, mais je l'emploierais vraiment très volontiers et sans aucun... Oui, il y a quelque chose de sacré, je pense, dans l'écriture. Et c'est de sacré parce que c'est se consacrer à... Finalement, je me dis que ça rejoint ce qui m'a tellement bouleversée à l'époque où je travaillais sur Kant, c'est-à-dire cette question centrale de la finitude. Mmh. Bon, moi, j'avais travaillé sur la force, donc en partie aussi sur la question du sublime, hein, c'est-à-dire la manière dont l'être humain est confronté dans certaines expériences à un spectacle qui le dépasse, qui est trop fort pour lui, et en même temps à l'expérience de sa propre force qui est intérieure. Cette question, on peut dire que moi, je l'ai déplacée peu à peu dans celle du langage. Je trouve que ce qui est très beau dans la littérature, c'est qu'au fond, ça marche jamais. Ça marche jamais parce que, alors, est-ce qu'on a du plaisir à écrire ? Stevenson disait n'épousait jamais un écrivain parce que à la fin de sa journée, il est jamais content. Donc, il épousait plutôt un peintre. D'après lui, les peintres étaient contents de leur journée. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il disait dans une lettre à Henry James. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais vraiment de raison d'être satisfait parce que le langage, en gros, ça marche pas. La communication, ça peut marcher en tant qu'outil généralement de manipulation des individus, mais le langage, c'est la forme même de notre finitude. Je veux dire, les gens ne se comprennent pas. Moi, les livres que je préfère, comme par exemple, j'en sais rien, ceux de je citais Flaubert tout à l'heure, mais on pourrait dire de Nathalie Sarraute, ce sont des livres justement qui tentent de traduire ce qui ne fonctionne pas dans et en même temps, c'est magnifique. Ça fonctionne pas, pourquoi ? Parce que ça va s'arrêter à un moment, parce qu'il y a cette finitude qui est là. Mais c'est pas que tragique, c'est tragicomique. Et c'est ça que j'aime, en fait. Enfin, c'est ça que je trouve... Je trouve que c'est un travail de traduction assez sacré. J'emploie le mot traduction, il se trouve que je suis aussi traductrice. Je le suis devenue... c'est la première chose que j'ai faite en quittant l'université, c'était pour gagner ma vie. J'ai traduit pas mal de philosophie à l'époque. J'ai traduit beaucoup d'essais de cinéma aussi. Puis peu à peu, j'ai traduit de la fiction. Maintenant, je traduis surtout des romans. Et c'est vrai que ce travail de traduction, littéralement, c'est ce que fait aussi tout écrivain, d'essayer de traduire la condition humaine.
Est-ce qu'ils ont une responsabilité politique, ces écrivains et ces philosophes ?
Ah oui. Enfin, une responsabilité, je dirais, une responsabilité. Un de mes écrivains préférés, j'ai que des écrivains préférés, mais un de mes écrivains préférés, Henry James, que j'adore, disait « Toute personne qui a conscience de la responsabilité qu'implique le fait d'écrire sait que l'écrivain est quelqu'un de très inquiétant. » J'aime beaucoup cette phrase d'Henry James, qui, comme toute phrase d'Henry James, est toujours un peu mystérieuse et cryptique, mais il y a cette idée, voilà, de la responsabilité. Oui, il y a quelque chose de... Je parlais de Moïse tout à l'heure, mais il y a quelque chose à la fois du bégaiement de Moïse, c'est-à-dire ça marche pas, et en même temps d'une tâche qui est assez sacrée, cette tâche de traduction de la condition humaine.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que, par exemple, que l'écrivain, ou que vous, est-ce que vous avez une responsabilité directement politique ? Il faut se prononcer sur l'actualité, prendre parti ? Ou est-ce que ça passe uniquement par l'écriture ?
Alors moi j'ai tendance à, comment dire, justement, c'est ce que m'a appris par exemple Jean-Jacques Rousseau, mais j'ai tendance à regarder un peu les discours ou les sermons, je m'en méfie un peu. Enfin, je suis toujours aussi obsédée par la question de l'adéquation entre les paroles et les actes. C'est vraiment une obsession chez moi. Donc, après, oui, il y a une responsabilité. La question du langage, c'est une question politique, bien sûr. C'est une forme de pouvoir. C'est une forme de pouvoir. Et donc, il faut pas l'utiliser comme une forme de manipulation. Et puis, il faut aussi toute personne qui en est dépositaire. Mais je pense que tout être humain est dépositaire du langage. Il l'abrite le temps de son existence. Et puis, certains humains qui sont des écrivains essayent de traduire ça dans des livres. Mais oui, ça implique, pour moi, c'est quelque chose de politique aussi. Même si c'est pas directement de la thématique politique pour se faire mousser. Mais ça, c'est encore... Ou pas se faire mousser, d'ailleurs. On peut aussi y croire, comme George Orwell, qui écrit magnifiquement là-dessus.
Merci, Hélène Frappa, d'être venue parler de votre parcours ce matin et de votre travail.
Merci.
On peut lire de vous notamment votre dernier roman, Le Dernier Fleuve, aux éditions Actes Sud. On mettra en ligne sur le site des chemins les différents ouvrages que vous avez écrits. Et on se quitte avec une chanson, enfin un opéra de Strauss, La femme sans ombre, vous en aviez parlé. Voici la version musicale. Et désormais, chaque vendredi, l'équipe des Chemins de la Philosophie vous propose un nouveau rendez-vous. On va vous faire découvrir un moment d'archives de philosophes ou de philosophie. Cette semaine, eh bien, écoutez le philosophe Jean-Paul Sartre. C'était le 3 novembre 1947 dans l'émission Les Temps modernes, qui lit et commente pour vous le courrier des lecteurs.
Vous croyez avoir la radio ?
Vous n'aurez vraiment la radio qu'avec un poste moderne. Jean-Paul Sartre et ses collaborateurs, Simone de Beauvoir, Jean Pouillon, A. Bonafé, J.B. Pontalis, vous présentent leur émission hebdomadaire.
Alors Sartre, vous nous parlez aujourd'hui des lettres que vous avez reçues à propos de nos émissions ?
Oui, elles sont très intéressantes. J'ai reçu des lettres de félicitations, naturellement, et naturellement aussi des lettres de blâme et d'injures. C'est de ces dernières que je vais vous parler, parce que je trouve qu'elles traduisent un état d'esprit curieux et inquiétant. Tiens, en voilà, tenez, lisez ça,
Pontalis. Je vais la lire. Monsieur Paul Sartre, vous êtes un ignoble individu. Je ne comprends pas qu'un type de votre acabit ne soit pas encore lapidé. Quoi, la liberté d'opinion, d'expression, non mais c'est du parti pris. Vous êtes un loufoque, un dégueulasse. J'espère que mes semblables en idées auront votre peau. Elle n'est pas mal. Et celle-ci ? Monsieur, je tiens à vous exprimer tout mon dégoût et tout mon mépris à la suite de votre émission. Combien vous a-t-on payé pour cette émission ?
Oh, vous savez... Ce n'est pas tellement intéressant, ce sont des lettres d'injures. J'en ai vu mille comme ça. J'en ai lu en 1945, des lettres reçues par un quotidien. C'était le même ton, le même contenu. Ce sont écrites par des gens qui ne trouvent pas leur point de vue exprimé dans les journaux, des bons Français, comme ils signent. Et ces lettres-ci sont aussi écrites par des bons Français qui attendent de pouvoir s'exprimer au grand jour, publiquement, comme ils sont aujourd'hui obligés de le faire seulement dans la clandestinité.
Oui, mais enfin, lisez-les mieux. Tenez, celle que vous venez de lire, il était dit « Combien vous a-t-on payé pour cette émission ?» Ben, lisez-en d'autres. Vous allez voir, c'est le thème qui revient tout le temps.
Combien avez-vous reçu du Parti communiste pour nous donner une émission comme celle d'hier soir ?
Oui, par exemple, vous en avez encore d'autres.
Oui,
c'est... Tenez, ça, c'est impossible.
C'est impossible, vous n'êtes pas un Français, mais un agent de l'étranger. Par qui êtes-vous payé, monsieur ?
Voilà, vous voyez, me voilà vendu à Staline. Ben, regardez d'autre part l'article de l'Humanité de l'autre jour. Qu'est-ce qu'il disait ?
Oui, le laquais de service. Mon pauvre Sartre, vous avez appris par cet article que vous êtes vendu à Ramadier.
Ben oui, je suis vendu à Ramadier comme je suis vendu à Staline. Mais comme Ramadier est vendu aux États-Unis, finalement ce sont les Américains qui m'achètent. Ça se recoupe parfaitement avec ce que disait un brave professeur tchèque qui a été faire une conférence à Belgrade sur l'existentialisme il y a peu de temps. Il a dit l'existentialisme, c'est tout simple, c'est la philosophie de Sartre qui touche tous les mois à l'ambassade des États-Unis. Ainsi, vous voyez... L'idée d'une pensée indépendante est complètement perdue. Vous parlez, vous n'êtes pas d'accord avec les gens, c'est que vous êtes payé par d'autres. Au moins, si j'étais d'un des deux blocs, il n'y aurait que la moitié des auditeurs qui m'accuseraient d'être vendu. Mais comme je ne suis ni de l'un ni de l'autre, alors vous voyez, je suis acheté par tout le monde à la fois. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne croit plus à l'idée d'un effort désintéressé pour comprendre. Dès que vous essayez de penser, on dit, là derrière, il y a du machiavélisme. C'est-à-dire... Vous faites cette démarche, mais pas du tout pour le but manifeste que vous proposez, pour un but rigoureusement contraire. Vous dites quelque chose, mais au fond, c'est contre. Alors vous voyez ce qu'on sent dans toutes ces lettres. C'est l'idée que la pensée est dévalorisée. La suprématie du mensonge sur la vérité, de la tactique sur la logique, des intérêts sur la pensée des intéressés. Mais continuez à lire d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres choses à voir.
Celle-ci signée un auditeur ?
Oui.
Hier, à l'émission Temps moderne J.P. Sartre, j'ai pu vous comparer à Errol Paquis. Lorsqu'il vomissait toutes ses insultes.
Il y en a même à Philippe Henriot, c'est ça. Oui, il y en a un qui m'a dit que le sort de Philippe Henriot vous fasse réfléchir, et là, c'est pas tout à fait ça, n'est-ce pas ?
Mais il fallait un Philippe Henriot aux patriotes étrangers.
Voilà. D'autre part, il y a eu l'autre lettre que je n'ai pas là, où on dit « La jeune femme qui parle avec vous à la radio est une bonne femme boche. » Et il y a encore plus joli, ici, tenez, là.
Ah oui, par qui êtes-vous payé, monsieur ? Par le dictateur russe ou par le dictateur boche ?
Ça, c'est vraiment très drôle, parce que je croyais qu'Hitler était mort. Enfin, peut-être qu'il ne l'est pas et que l'auditeur a des lumières spéciales sur la question. Mais enfin, vous voyez, ce qu'il y a de très frappant, n'est-ce pas, c'est qu'il y a dans toutes ces lettres une hantise. La hantise de l'occupation allemande avec tout ce qu'on y détestait. Tenez, voilà une lettre d'un type qui dit qu'il ne signe pas.
Ah oui, il ne veut pas signer parce que vos sbires ont encore, pour peu de temps, un peu d'autorité. Aussi, je vous promets de vous faire connaître avant à moi mon identité, entre parenthèses, si vous existez encore.
Mes sbires. Vous voyez, on se croit encore sous l'occupation. Je suis Henriot. On me tuera comme lui. On reste clandestin parce que si on signait, les milices toutes puissantes de l'ennemi risqueraient d'intervenir. Autrement dit, on pense qu'il y a une dictature étrangère en France, menaçante et meurtrière, qui se manifeste partout, dans la vie quotidienne aussi bien que dans les grands événements. Tout le monde est d'accord là-dessus. Les gens sont en désaccord seulement pour savoir quel est le pays qui exerce la dictature. Tenez, lisez encore ça.
Monsieur Sartre, vous êtes un ignoble individu. Et si les fours crématoires d'Allemagne ne sont pas encore démolis, il serait bon qu'ils servent à nous débarrasser des individus de votre espèce.
Le four crématoire, vous voyez comme les procédés de l'ennemi ont marqué. Au fond, nous vivons en 1947 avec les mêmes images, les mêmes représentations, les mêmes craintes, les mêmes haines, les mêmes souvenirs, les mêmes visions atroces qu'en 1944-43. Au fond, on pense la situation de 47 avec les mots et les moyens de 1943.
Merci beaucoup Jean-Paul Sartre et à la semaine prochaine pour un nouveau moment de découverte d'archives de philosophes. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Clara de Giovanni en compagnie de Manon de la Selle, Avril Poignant-Le Goff, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berge qui a réalisé pour vous cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Jacques Azubert. À la lecture des textes, Elsa Le Poivre. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle série d'émissions. On vous parlera du cinéaste Christopher Nolan. Et comme le disait mon invité aujourd'hui, Hélène Frappa, le cinéma, comme la philosophie, nous aide à penser. Alors on ira dans le cerveau de Christopher Nolan. On parlera de Memento, d'Inception, de Batman, d'Interstellar. Et vous verrez, c'est un sacré tour dans le cerveau qu'on vous proposera pour le pire et pour le meilleur. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires. À lundi, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.